Maria Edgeworth, Belinda. Première partie. Chapitre 1er. Caractère. Mistress Stanhope avait de l'esprit. C'était une de ces femmes qui, sacrifiant leur amour-propre à leur intérêt, possèdent l'art de s'introduire dans le grand monde. Sa fortune était médiocre. Elle savait l'employer habilement à se maintenir dans la société la plus distinguée. Elle s'enorgueillissait d'avoir heureusement établi une demi-douzaine de nièces et de les avoir mariées à des personnes dont la fortune était bien supérieure à la leur. Il ne lui en restait qu'une, c'était Belinda de Portman. Belinda était belle, pleine de grâce, d'esprit et accomplie sous tous les rapports. Sa tante avait employé tous ses moyens pour lui persuader que la plus sérieuse occupation d'une jeune personne était de plaire dans la société et que tous ses charmes, toutes ses perfections ne devaient absolument servir qu'à un seul objet, son établissement dans le monde. Mistress Stanhope ne trouva pas dans Belinda une élève aussi docile que dans ses autres nièces, parce qu'elle avait reçu sa première éducation à la campagne et qu'elle y avait pris le goût d'une vie modeste et retirée. La lecture était une de ses plus douces occupations. Elle semblait ne vouloir prendre pour guide dans le monde que la prudence et la vertu. Cependant, son caractère devait être développé par les différents événements de sa vie. Mistress Stanhope habitait Bath, où elle avait plus d'occasion de faire paraître Belinda à son avantage. Mais comme sa santé commençait à s'affaiblir et qu'elle ne pouvait pas sortir autant qu'elle le désirait, après avoir fait jouer tous les ressorts de son esprit, elle parvint à placer Belinda pour tout l'été auprès de Lady de la Cour, l'une des femmes les plus à la mode de son temps. Cette dame fut tellement enthousiasmée des grâces et de l'esprit de Belinda qu'elle l'engagea à venir avec elle passer l'hiver à Londres. Peu de temps après son arrivée à Londres, celle-ci reçut la lettre suivante de sa tante Stanhope. De Bath. Après avoir cherché partout, Anne a trouvé votre bracelet dans votre toilette, parmi des papiers et des chiffons que vous aviez laissés pour être jetés au feu. Je vous l'ai envoyé par un jeune homme qui arriva à Bath, malheureusement pour lui, le jour même que vous en êtes parti. C'est M. Clarence Hervé, admirateur de Lady de la Cour. Ce jeune homme est véritablement aimable. Il est très instruit et jouit d'une fortune considérable et indépendante. Il joint à tous ses avantages beaucoup d'esprit et de goût. C'est un homme fait pour établir la réputation d'une femme. Il est, comme on dit, connaisseur en beauté. Il dirigera la mode si je ne me trompe. Ainsi, ma chère Belinda, suivez mes conseils, faites attention à vous lorsqu'il vous sera présenté, et souvenez-vous de ce que je vous ai recommandé souvent, qu'on ne peut être bien vu par personne sans un extrême désir de plaire. Je vois tous les jours, ou plutôt je voyais, lorsque ma santé me permettait d'aller plus souvent dans le monde, des essaims de jeunes étourdis, ayant toutes l'air d'être formés sur le même modèle, se montrant dans le grand monde sans autre but que de s'amuser et d'exciter l'admiration éphémère de ceux qui font métier d'admirer toutes les femmes. On les voit encore le jour suivant. L'année suivante, elles jouent le même rôle et toujours sans arriver à un but ni plus utile ni plus agréable. Comme je plaignais et je méprisais à la fois ces jeunes folles en observant leurs petites manières. Je les voyais s'envier les unes les autres de la manière la plus évidente et par conséquent la plus ridicule, et s'exposer ainsi à l'examen sévère et aux observations satiriques de ces mêmes personnes dont elles désiraient l'admiration, babillant, chuchotant, ricanant, ne pensant jamais à l'avenir et ne profitant pas même du présent, contente d'avoir un danseur pour une contredanse et ne réfléchissant jamais au bonheur d'avoir un époux pour leur vie. Je me suis souvent demandé à moi-même ce que pouvaient devenir ces personnes-là lorsqu'elles deviennent laides ou vieilles, ou même lorsque l'œil du monde se fatiguait de voir leur monotone coquetterie. Si elles ont une grande fortune, tout est bien. Elles peuvent prendre sur leur vie 2 ou 3 années pour jouir d'une liberté qui doit leur devenir à charge. Elles peuvent être assurées que tôt ou tard, elles seront recherchées, non seulement par de jeunes écervelés, mais encore par des gens de mérite. Mais concevez-vous une position plus affreuse que celle d'une jeune demoiselle pauvre quand elle a dépensé en pompons et en rubans l'intérêt et le capital de sa modique fortune? Elle pense alors au mariage. Un engagement convenable, une heureuse union, fuit devant elle avec le bonheur et le repos. Et pourquoi? Parce qu'elle n'a pas tracé le plan de sa vie de manière qu'un établissement solide et convenable en soit toujours le but. Elle se trouve, à 35 ou 36 ans, à charge à ses parents, à charge à ses amis, à charge à ses connaissances, à charge à toute la société, où l'instinct de l'habitude la pousse. Je souhaite, ma chère Belinda, que vous ne vous trouviez jamais dans cette horrible situation. Vous avez, ma chère amie, tous les avantages que vous pouvez désirer. Je n'ai rien épargné pour votre éducation, et ce qui est essentiel, j'ai pris soin qu'on le sût partout. Vous avez donc la réputation d'être très instruite. Vous aurez bientôt celle d'être une femme à la mode, si vous vous montrez souvent en public avec Lady de la Cour. Il est inutile de vous recommander de prendre Milady pour exemple. Votre esprit et votre raison vous feront sentir qu'elle a un trop grand usage du monde pour que vous ne soyez pas sûr d'avoir des succès en l'imitant. Il faut surtout vous attacher à éloigner toute idée de rivalité, de comparaison même, entre vous et Lady de la Cour. Il serait imprudent et ridicule à une jeune personne d'avoir cette prétention. Mais je m'abstiens de tout raisonnement sur cet article. Malgré la naïve candeur de votre âge, je suis certaine que vous aurez remarqué, comme moi, combien la trop grande indulgence qu'on a pour soi-même nuit à l'indulgence qu'on doit avoir pour les autres, et vous sentirez combien on se conduit contre votre intérêt en donnant l'essor à une sotte vanité. Lady de la Cour a un goût vraiment exquis pour tout ce qui concerne la toilette. Consultez-la, suivez ses conseils, ma chère, et n'allez point, par une économie mal dirigée, ne pas vous conduire d'après ses avis. Je n'ai point d'objection à faire sur votre présentation à la Cour. Ce sera un moyen, si vous vous conduisez adroitement, de vous introduire parmi la meilleure et la plus haute compagnie. Il est essentiel de faire de son argent un noble emploi, mais surtout un emploi noble aux yeux du monde. Car on juge de ce que peut dépenser une femme par ce qu'elle dépense habituellement. Je ne sache rien qui puisse et qui doive engager une jeune personne à dire quel est son âge et quelle est sa fortune. Mais adieu, ne m'oubliez pas auprès de Lady de la Cour et dites-lui pour moi tout ce que vous pourrez trouver de plus aimable. Adieu, ma chère Belinda. Recevez l'assurance de la tendre amitié de Célina Stanhope. Il arrive souvent que les conseils donnés pour produire un certain effet sont suivis d'un effet tout contraire. Les sermons continuels que Mistress Stanhope adressait à sa nièce sur ses manières, son ton, son établissement, avaient impatienté Belinda et l'avaient rendue plus indifférente sur les éloges qu'on lui donnait tous les jours sur sa beauté. Elle était beaucoup moins sensible à ses succès que la plupart des jeunes femmes de son âge. Cependant, elle aimait beaucoup à s'amuser et Mistress Stanhope lui avait fait partager son goût pour le grand monde et pour la mode. Elle négligea la littérature à mesure qu'elle s'aperçut que rien n'était moins utile pour la société de Lady de la Cour. Elle n'avait jamais beaucoup réfléchi et cependant, elle était moins coquette et moins affectée qu'elle n'aurait pu l'être après les pédantes dissertations sur l'art de plaire que lui faisait continuellement sa tante. Tous ces discours l'ennuyaient et la disposaient depuis longtemps à jouir plus vivement des plaisirs de la capitale. Belinda fut donc enchantée de faire une connaissance intime avec Lady de la Cour. Elle la trouvait singulièrement agréable. Milady faisait la même impression sur tout le monde. Elle séduisait par ses grâces, son esprit, sa politesse. Personne n'était plus à la mode. On répétait ses bons mots, on imitait sa toilette, on voulait être de sa société. Ordinairement, l'esprit d'une femme n'a de réputation que tant qu'elle est belle, et il arrive même souvent qu'une femme passe de mode avant de passer de figure. Lady de la Cour faisait exception. Elle avait perdu depuis longtemps la fleur de sa jeunesse et elle était encore citée pour sa figure. Les gens aimables, les hommes d'esprit, tout ce qu'il y avait d'élégant et de recherché, désiraient d'être comptés parmi ses connaissances particulières. Se montrer en public avec elle était déjà une distinction. Il n'était pas étonnant que Miss Belin de Portman s'estima très heureuse d'aller demeurer chez une personne qui avait autant d'attrait et de brillant. Au bout de quelques jours, Belinda commença à percer le voile de politesse qui cachait les mystères de l'intérieur de cette maison. Lady de la cour était une autre personne lorsqu'elle rentrait chez elle. Dans le monde, c'était la vivacité, la gaieté même. Dans son intérieur, elle avait de l'humeur et de la tristesse. Elle était comme ces actrices que le public a rendues si difficiles qu'il leur faut des applaudissements forcés pour qu'elles ne soient pas mécontentes. Quand son salon était plein de gens aimables, quand elle donnait de la musique ou lorsqu'elle faisait danser chez elle, elle avait l'air d'une fée qui préside à des enchantements. Elle était l'âme de tout ce qui l'entourait. Mais quand on s'était retiré, quand les bougies étaient éteintes, elle n'était plus la même. Elle se promenait dans son magnifique salon d'un air soucieux et chagrin. Pendant plusieurs jours, Belinda n'entendit pas même parler de Lord de la cour, autrement que par un mot que Milady lui dit en lui montrant la maison. « Il ne faut pas entrer ici, » lui dit-elle en arrivant à une aile de la maison. « Ce ne sont que les appartements de Milord. » La première fois que Belinda le vit, il était ivre mort entre les mains de deux laquais qu'il rapportait chez lui. Lady Delacour rentrait du Ranelagh au même moment avec Belinda. Il était 6 heures du matin. Elle passa auprès des deux laquais, sur le repos de l'escalier, en jetant sur son mari un coup d'œil de mépris. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Belinda. « Ce n'est rien, » répondit Milady. « C'est le corps de Milord qu'on rapporte. Vous vous êtes trompés d'escalier, mes amis. Redescendez. Milord a son escalier et moi le mien. Ne vous effrayez pas, Belinda. Moi, je suis tout à fait accoutumée à ces scènes-là. Mais il est 6 heures, je crois. Allons, retirons-nous. » Le lendemain matin, à 2 heures, Lady de la cour et Belinda achevaient de déjeuner lorsque Lord de la cour entra. « Voilà Milord à jeun que j'ai l'honneur de vous présenter. » Belinda ne le trouva pas plus aimable qu'elle ne l'avait trouvé pendant son ivresse. Il avait une expression de sottise, d'opiniâtreté et d'humeur qui faisait un ensemble extrêmement déplaisant. « Quel âge lui donnez-vous ? » dit tout bas Lady de la cour à Belinda, qui voyait avec étonnement combien la main de Milord tremblait. « Je parie, ajouta-t-elle à haute voix, que vous vous trompez de 10 ans. « Est-ce que vous allez au bal aujourd'hui ? » dit Lord de la cour. « Tenez, je vous parie que vous vous trompez de 16 ans. Comment trouvez-vous ce marché-là ? Vous ne pouvez pas avoir cette berline sur laquelle vous comptiez pour aujourd'hui, » reprit Milord. Puis, voyant que sa femme avait les yeux fixés sur Belinda, il ajouta « Voulez-vous bien me faire l'honneur de m'écouter, Milady ?»« Eh bien, vous ne voulez pas, » reprit celle-ci, parlant à Belinda, sans faire la moindre attention à son mari, « et je crois que vous avez raison, car vous auriez dit 66 au lieu de 36, j'en suis sûre. En revanche, il a l'avantage de pouvoir boire 8 bouteilles de vin de champagne avant d'être sous la table, et ce n'est pas peu de chose pour quelqu'un qui n'a pas d'autre manière de se distinguer. Il y a des gens qui feraient mieux de se distinguer moins, reprit Milord avec humeur. Que c'est plat ! S'écria Milady. C'est plat ! Reprit-il. Eh bien, je vous dirai tout platement que je ne veux pas qu'on me contredise et que je ne veux pas qu'on se moque de moi. Entendez-vous ? « Il vaudrait bien mieux faire plus d'attention à votre conduite et moins d'attention aux autres. »« Moins d'attention à celle des autres, vous voulez dire, je suppose. »« À propos, Belinda, n'est-ce pas vous qui m'avez dit que Clarence Hervé est à Londres ?»« Vous ne le connaissez pas, je vais vous le dépeindre en vous disant ce qui lui manque. »« D'abord, c'est un homme qui ne dit jamais de platitude. » Ensuite, il n'a pas besoin de boire 8 bouteilles de vin de champagne pour être aimable. Après cela, s'il se marie, toute sa consistance dans le monde ne dépendra pas de sa femme. Enfin, s'il se marie, il ne deviendra pas un joueur, un ivrogne, un jockey, dans la crainte d'être mené par sa femme et pour prouver qu'il sait bien se conduire tout seul. Bravo, Milady, allez votre train! Reprit Milord en menant sa cuillère en équilibre sur le bord de sa soucoupe. « Allons donc, continuez, Milady. Clarence Harvey sera content et moi aussi assurément. Continuez donc. Eh bien, vous avez déjà tout dit. J'avais un singulier plaisir à vous entendre.
Je ne trouverai jamais de plaisir à vous en procurer, dit Milady sèchement.
Vous pouvez être bien sûr de cela.
Milord se mit à siffler au lieu de répondre et se regarda les ongles en souriant.
Belinda forma la sonnaise, se leva pour sortir, craignant les suites de ce dialogue grossier.
Monsieur Hervé, dit un laquais en ouvrant la porte. Et Monsieur Hervé entra.
Lady de la cour alla au-devant de lui avec toutes ses grâces. Elle lui tendit la main et lui dit
« Ah, enfin vous voilà! Mais je vous prie, qu'êtes-vous donc devenu depuis un siècle? Savez-vous que j'ai besoin de vous tout à fait quand j'ai été longtemps sans vous voir?
C'est Miss Portman.
Mais qu'est-ce que vous avez donc? N'êtes-vous pas bien? Vous avez quelque chose d'endormi, ce me semble. »
« Ah !» dit Clarence d'un ton théâtral et en prenant une attitude forcée.
« J'ai passé la plus affreuse nuit !»
Lady de la cour prit le même ton de déclamation et lui demanda ce que c'était donc que cette nuit affreuse.
« Oh ciel !» reprit-il en parodiant une tirade de vers connue. « Quelle fatigue que cette danse ! Quel bourdonnement que cette musique ! Quel ennui que toutes ces belles sans beauté qui passent et repassent. Et comme je pensais et disais tout cela, voici un fantôme à cheveux rouges et couronné de fleurs qui vient me crier dans les oreilles « Salut, ô Clarence ! Parjure, Clarence, salut !»«
Ah, charmant !» s'écria Milady. « C'est Madame Luttridge. Il semble qu'on l'entend. Quel incroyable talent d'imitation avez-vous donc ?» Mais quelle malheureuse étoile vous a conduit chez cette odieuse Madame Luttridge.
Monsieur Hervé se jeta sur le sofa entre Milady et Belinda.
Milord continua de siffler et sortit du salon sans prononcer une syllabe.
Mon Dieu, s'écria Clarence, mon rêve me faisait oublier.
Voici votre bracelet, Miss. Mistress Stanhope m'a fait espérer que si je le remettais en main propre, j'obtiendrais la faveur de l'agrafer moi-même.
Alors la conversation s'engagea sur la nature des promesses des femmes, sur la mode des bracelets, sur les proportions des bras de la Vénus de Médicis et de ces deux dames, sur ceux que les statues antiques ont la jambe forte et le pied long, et sur les défauts de Madame Luttridge et de sa perruque.
Monsieur Hervé déploya dans cette conversation beaucoup d'esprit, de galanterie et de talent pour la satire.
Aussi, lorsqu'il prit congé, Belinda dit-elle à Milady qu'en effet, il était charmant.
Clarence Hervé aurait pu être quelque chose de mieux qu'un jeune homme aimable. Mais il avait la passion de jouer le premier rôle partout. Il avait été flatté. On lui avait persuadé qu'il était homme de génie. À ce titre, il se croyait autorisé à n'être comme personne et il affectait d'être singulier pour obtenir de la distinction. Ses talents littéraires lui avaient donné de la réputation à Oxford. Mais il avait une telle crainte de passer pour un pédant que, dans le monde, il se piquait d'ignorance. Personne mieux que lui ne connaissait l'art de se plier au goût et à la manière d'être de chacun. Il se faisait tout à tous. Il savait plaire aux hommes comme aux femmes. Mais il mettait, en général, beaucoup plus de prix à ses succès dans la société de celle-ci. Sa conduite était réglée. Il avait un vif sentiment de l'honneur. Il était sensible et bon, mais il était très susceptible d'entraînement et sa société était d'un genre qui ne devait pas tarder à le rendre vicieux. Quant à ses relations avec Lady de la cour, sans doute il eût été révolté de troubler l'union d'un ménage. Mais ici, il n'y avait pas d'union à troubler. Il y avait un peu de fatuité dans son fait. Il n'était pas fâché qu'on vît qu'il était bien reçu chez une femme de beaucoup d'esprit et d'agrément. La jalousie de Milord l'amusait, l'impatientait et le flattait tour à tour. Comme M. Hervé était de toutes les parties de Milady, il vit Belinda presque tous les jours et tous les jours il admira davantage sa beauté. Tous les jours il sentit croître ses craintes de finir par épouser une nièce de cette personne,
si bien connu pour avoir réussi, par ses artifices, à marier richement plusieurs de ses parentes. Les jeunes filles qui ont le malheur d'être sous la tutelle de ces femmes à grand dessein sont toujours supposées être de moitié dans les spéculations, quoique leur nom ne paraisse pas. Sans le préjugé défavorable que Mrs. Stanhope inspirait à M. Hervé, il aurait cru Belinda sans malice et sans art. Mais ce préjugé la lui fit considérer comme une personne profondément artificieuse. Et tout en éprouvant les effets de ses charmes, il la méprisait du fond du cœur pour la coquetterie dans laquelle, si jeune encore, elle se montrait consommée. Il n'eut pas la force de s'interdire sa société, mais il maudissait sa faiblesse et il éprouvait une sorte de terreur des suites de l'entraînement auquel il se laissait aller. Sa manière d'être avec elle avait quelque chose de si bizarre et de si inconséquent qu'elle ne savait que penser de lui. Quelquefois, elle croyait voir clairement dans ses regards qu'elle en était aimée, et d'autres fois, elle ne doutait pas que l'air de réserve qu'il affectait avec elle ne signifiât qu'il était amoureux de Lady de la cour. Toutes les fois que cette dernière idée se présentait à elle, elle s'indignait contre les effets de la coquetterie. La pauvre Belinda fut si tourmentée de l'idée qu'on l'avait mise sous la tutelle d'une personne dont la conduite et les manières étaient peu convenables, qu'elle en écrivit à sa tante Stanhope en lui représentant que la société de Lady de la cour pouvait nuire à sa réputation, à ses principes. Mrs. Stanhope répondit à la lettre de Belinda quelques jours après. Elle la grondait sévèrement sur l'imprudence qu'elle avait commise en nommant dans sa lettre les personnes par leur nom. Elle lui recommandait d'être plus discrète à l'avenir lorsqu'elle voudrait écrire et de ne plus confier ses secrets à la poste. Elle lui assurait que sa réputation ne courait aucun danger et elle ajoutait qu'elle espérait que jamais sa nièce ne deviendrait une prude. « Les hommes, disait-elle, craignent et méprisent plus une prude qu'une coquette même. Rassurez-vous, ma chère Belinda, la personne auprès de laquelle j'ai su vous placer est ce qu'une jeune personne peut trouver de mieux pour entrer dans le monde. Si vous êtes témoin de quelques petites altercations dans l'intérieur de la maison, il ne faut point y faire attention et il faut encore moins répéter par lettre ce qu'on voit et ce qu'on entend. » Quant à vos principes, ayez un peu plus de confiance en vous, ma chère amie, et n'allez pas vous faire l'injure de croire que vos principes ne sont pas assez solides pour n'être point ébranlés par des exemples que vous pourriez même suivre sans danger. Soyez circonspecte, ajoutait-elle, dans votre conduite avec un homme comme... Et croyez que vous ne pouvez avoir aucune cause bien fondée de jalousie, car le mariage n'est sûrement pas le but de Lady... Et d'ailleurs, leur âge est si différent qu'elle ne peut point conserver longtemps le cœur de... dans le cas où il serait pris. Le moyen infaillible de vous rendre ridicule vis-à-vis de l'une et de vous faire oublier de l'autre, c'est de montrer inquiétude et jalousie. Enfin, je vous avouerai que si vous avez la folie de donner votre cœur à monsieur... vous devez peu compter sur le sien, car il paraît être plus galant que sensible. Les craintes de Belinda furent calmées par cette lettre adroite. À mesure qu'elles diminuèrent, elle se reprocha plus vivement tout ce qu'elle avait écrit de la conduite de Milady. Elle pensa qu'il était impolitique à elle de dire du mal d'une personne à qui elle était pour ainsi dire confiée et dont elle était regardée partout comme l'amie. Elle s'accusa de manquer de délicatesse et elle écrivit sur le champ à sa tante de brûler sa dernière lettre, d'en oublier s'il était possible le contenu et d'être assurée que jamais il n'échapperait de sa plume ni de sa bouche de pareilles étourderies. Elle finissait par ces mots « J'espère que ma chère tante voudra bien regarder cette indiscrétion plutôt comme un oubli de ma raison que comme une faute de mon cœur. » Lady de la cour entra tout à coup dans sa chambre en s'écriant « Choisissez entre la tragédie ou la comédie, Belinda. Les dominos sont arrivés. »« Mais quoi ? » ajouta-t-elle en la regardant en face. « Des larmes dans vos yeux, de la rougeur sur le front, les genoux tremblants et des lettres que vous cachez ? Mais vous êtes la plus neuve des novices. Comme vous dissimulez maladroitement ! Une nièce de Mrs. Stanhope s'est si mal trompée. Est-il croyable qu'elle tremble si ridiculement pour une ou deux lettres d'amour ?»«
Non, ce ne sont point des lettres d'amour, Lady de la Cour, » dit Belinda en lui montrant le papier, pendant que cette dame, moitié sérieusement, moitié en badinant, essayait de le lui arracher.
« Ce ne sont pas des lettres d'amour, » reprit Lady de la Cour.
« Eh bien, il faut donc que ce soit une trahison, car je jure que je vois mon nom. »
En disant ces mots, elle s'empara des lettres, malgré tous les efforts de Belinda.
« Je vous en prie, je vous en supplie, je vous conjure de ne pas les lire !» s'écria Miss Portman en joignant les mains.
« Lisez la mienne, lisez-la si vous le voulez, mais laissez celle de ma tante !»
Et elle se jeta à ses genoux.
« Vous me priez, vous me suppliez, vous me conjurez ? Quelle simplicité ! Vous connaissez bien peu la force de la curiosité !»
En disant ces mots, Lady de la Cour ouvrit la lettre de Mistress Stanhope, la lut d'un bout à l'autre, la replia froidement quand elle eut fini.
« Vous aviez raison de m'assurer que ce n'était point des lettres d'amour, » dit-elle en laissant tomber les papiers. « Je vous jure que je ne vous les ai arrachés que par étourderie. Je vous en demande pardon. Tout ce que je puis faire à présent, c'est de ne pas lire le reste. »
« Non, je vous prie et je vous conjure, » dit Belinda, « de lire la mienne. »
Lorsque Lady de la Cour eut fini, sa contenance changea tout à coup.
« Quel trésor !» dit-elle en embrassant Belinda. « Que ce cœur ingénu ! Combien les meilleurs en sont loin !»
Lady de la Cour parla à Miss Portman avec une sensibilité que Belinda ne lui avait pas encore trouvée et qui la toucha si vivement qu'elle prit la main de Milady et la baisa.